qui dit « John F. Kennedy a été assassiné ». Alors là, vite, il essaye d'éteindre la radio, mais le message est passé. La magie du théâtre est partie. La magie de l'histoire dans laquelle ils étaient s'est évaporée. Les gens, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de se dire « Vite, il faut que je sorte pour avoir toutes les informations, pour savoir vraiment ce qui s'est passé, pour avoir plus d'informations sur ça. » C'était le 22 novembre 1963. Et cette histoire, ça me parle des fois de notre quotidien. On est pris dans des histoires, dans des pressions, dans des influences, et on est comme captivé dans cette salle de cinéma. Et tout d'un coup, parfois on peut oublier la grande histoire. Parfois on peut oublier le sens réel de la vie, le sens réel de la grande histoire. Et Dieu, il nous laisse un trésor. Il nous parle de cette grande histoire dans sa parole. Et c'est important. Parfois, ces pièces de théâtre-là dans nos vies peuvent être des influences, des influences du monde, des influences de la culture. On peut rechercher une liberté, les gens recherchent une liberté absolue. Ou alors, l'épanouissement personnel. Et ça nous conduit en fait dans des choses très précises où on se sent comme pris au piège par un mouvement, pris au piège par des performances, par quelque chose. Et Dieu, il veut allumer le bouton de la radio avec sa grande histoire. Et dans sa parole, il nous donne sa grande histoire, la grande histoire de l'humanité, et il nous donne aussi des conseils pour comment on peut vivre dans ce monde et ne pas être pressé par ces influences, pressé par ces pressions qui existent. Genèse 1, normalement j'ai un PowerPoint. Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Ça nous suffit. Le point de départ, c'est Dieu. Le point de départ de la grande histoire, c'est pas l'homme. C'est pas au commencement l'homme. Au commencement, Dieu. Ça replace Dieu comme l'auteur principal. C'est lui qui a écrit l'histoire, c'est pas l'homme. Et cette perspective-là, elle change énormément de choses dans nos vies, dans notre conception. De toute éternité, Dieu. Pour toute l'éternité, Dieu. Alors, c'est pas parce que Descartes a dit « je pense, donc je suis » qu'on a le droit d'élaborer une vision du monde exclusive à partir de notre regard. Et pourtant, des fois, on prend cette liberté. Parfois, on pense que la vision de notre monde, elle est faite à partir de ce que je comprends, à partir de ce que je peux voir, de ce que je peux saisir. Et on oublie qu'au commencement, Dieu. C'est comme si dans un laboratoire de recherche, il y avait une personne au microscope qui regarde, qui voit toutes les cellules, qui analyse, et il passe beaucoup de temps à regarder toutes ces choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui est persuadé que l'histoire, elle est comme ça, elle est à cette échelle-là. On a envie de lui taper sur l'épaule et de lui dire « Attends, prends du recul, regarde, autour il y a une autre vie ». Et parfois on est comme ça, on voit nos vies avec notre perspective, et on oublie qu'au commencement, Dieu. Alors, au commencement, Dieu, les premiers hommes avaient cette connexion avec la présence de Dieu. Ils vivaient avec cette présence de Dieu. Ils vivaient quelque chose de fort, d'intime avec Dieu qui se baladait dans le jardin. Et puis, le péché a fait irruption. Il est venu. L'humanité a été mordue par un serpent. Et depuis ce jour, le venin y coule dans les veines de l'humanité. Et ce qu'on voit autour de nous, le monde dans lequel on est, c'est un monde dans lequel le venin du serpent coule dans les veines. Et quand on pleure aujourd'hui sur des injustices dans ce monde, quand on pleure parce qu'on perd quelqu'un, parce qu'on subit des injustices, parce que des choses sont difficiles, c'est parce que dans notre cœur, au fond, on sait qu'il y a autre chose. On sait qu'il y a un autre monde. Et Dieu, il le promet. En même temps qu'il y avait, Éden et la pleine présence de Dieu, il a dit à la fin, il y aura de nouveau la terre et le ciel qui seront rassemblés. Et Dieu viendra chercher ses élus. Alors par un homme, le péché est entré dans le monde. Et il y a ce cri qui résonne à ce moment-là dans la terre, qui dit, mais qui l'en fera sortir? Si le péché est arrivé par un homme, mais qui l'en fera sortir? Alors la Bible, l'Ancien Testament nous raconte cette grande histoire, et elle est merveilleuse. On pense peut-être que c'est Noé, au début on peut se dire c'est Noé, il a été trouvé fidèle au milieu de sa génération. Et Dieu l'a pris, l'a mis dans une arche, et l'a sauvé lui seul et sa famille. Mais à peine sorti de l'arche, à un moment donné, il boit trop de vin, il est ivre, et il fait des choses qui déplaisent vraiment à Dieu. Et là, on est déçu. On se dit, bon, bah, c'est pas Noé. Ok, alors c'est peut-être Moïse, c'est peut-être Abraham. Abraham qui obéit à Dieu, qui lui dit, sors de ta patrie, va dans le pays promis, et qui obéit, qui lâche tout. Mais Abraham, il permet à des rois étrangers de toucher sa femme pour ne pas être tué lui-même. C'est un peu vache, hein ? C'est un peu lâche. Finalement, c'est peut-être pas lui non plus qui pourra faire sortir l'humanité du péché. Bon, Moïse alors. Moïse vraiment est extraordinaire. Il a essayé au début de sauver Israël tout seul en tuant un Égyptien. C'était pas la bonne technique. Donc après 40 ans, dans le désert, il est revenu, appelé par Dieu, et il a fait des prodiges, il a fait des miracles pour faire sortir Israël d'Égypte. Il a été fidèle, il a parlé à Dieu directement, mais même à un moment donné, il a désobéi. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas rentrer. Oh, c'est pas lui non plus. Qui est cet homme qui nous fera sortir du péché? Josué, juste après? Josué conduit le pays, il conduit le peuple d'Israël dans le pays promis. Et il commence à conquérir toutes les villes que Dieu a données en héritage au peuple d'Israël, mais pas tous. Et quand il meurt, Josué, il n'a pas conquis tout ce territoire. Et les peuples étrangers qui sont encore là vont être une occasion de chute pour le peuple d'Israël. Ensuite, il y a toute une série de juges. Alors les juges, ils sont incroyables. Ils voient la puissance de Dieu, mais ils ont des histoires. Ils ont des histoires incroyables. Il y a des infanticides, il y a des coureurs de jupons. C'est incroyable de voir en même temps la puissance de Dieu et en même temps des vies tellement, tellement pas parfaites. Et puis, il y a les rois. Il y a plein de rois. Il y en a un qui a appelé celui qui avait un cœur selon Dieu, le roi David. Mais même lui, à un moment donné, eh ben en fait, il commet un adultère et il fait tuer le mari de celle de qui s'était épris. C'est pas lui non plus. On commence à être un peu désespéré quand même dans cette histoire. Qui fera sortir l'humanité du péché? Ensuite, il y a des prophètes qui viennent annoncer quelqu'un, qui viennent redonner espoir au peuple. Il y a quelqu'un qui doit arriver. Il y a quelqu'un. Et il donne des indices pour qu'on puisse à un moment donné le reconnaître. Et puis un jour, il y a un bébé qui naît. Un bébé qui naît d'un pauvre ado, qui naît dans une mangeoire à bétail, qui est soigné par une poignée de bergers. Un bébé qui très tôt connaît le fait d'être migrant, réfugié et demandeur d'asile en Égypte. Il grandit et il est charpentier. Peut-être pas un métier extraordinaire, ou en tout cas pas pharisien et maître de la loi. Et puis un jour, son cousin, Jean-Baptiste, lui aussi mangeur de sauterelles, il devait avoir les cheveux un peu longs, ça devait être assez sympa à voir, le voit arriver et dit « Mais c'est lui ! C'est lui, ce petit bébé, migrant, réfugié, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, c'est Jésus. » Et on a cette promesse aujourd'hui avec Jésus que celui qui croira dans les actes de sa vie, qui croira dans sa mort, qui croira dans sa résurrection, recevra l'antidote pour le venin. Et retrouvera la relation restaurée avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais cette grande histoire, elle ne s'arrête pas là. Elle continue avec nous. Et on a besoin de se rappeler cette grande histoire. On a besoin de comprendre le sens de l'histoire. Et dans sa grâce, Dieu, il nous donne des prophéties aujourd'hui, par son esprit, pour nous rappeler où on se situe dans cette grande histoire. Il nous donne des prophéties qui nous permettent d'allumer la radio, il nous donne son esprit qui nous permet d'allumer la radio pour qu'au milieu de notre vie, on saisisse la grande histoire. Et on a besoin de se la rappeler à soi. Plusieurs fois dans la Bible, on voit « mais rappelez-vous » ou alors « l'histoire est décrite à nouveau et à nouveau ». Il ne faut pas oublier, pas oublier. Je dois me le rappeler à moi, mais je dois le transmettre à mes enfants. Rappelons-nous ensemble. Et pas juste l'histoire d'Israël qui sort d'Égypte, mais l'histoire de ma vie quand je suis sortie d'Égypte, quand je suis sortie de l'esclavage du péché. On a besoin de se rappeler ça et de le rappeler à nos enfants. La grande histoire, elle nous aide à voir notre histoire à partir de la perspective de Dieu. Et pour ne pas voir notre vie depuis les pressions du monde, depuis les influences du monde, mais depuis sa perspective, depuis son regard à lui. Nous avons, en tant qu'individus, reçu des promesses. Notre communauté a reçu des promesses. Et on doit se les rappeler. On doit se rappeler ces promesses. J'ai repris quelques prophéties qu'on avait reçues à l'église de Marguerite et je voulais vous les rappeler parce que c'est motivant. Ça nous permet de savoir où on est aujourd'hui et où on va. Dieu a promis des choses extraordinaires. Il a promis une grande récolte. Il a promis de venir et de nous donner cette onction pour libérer des captifs. Il va nous donner des vignes chargées de fruits. Il y aura une onction pionnière dans cette église. Il nous élève pour restaurer le royaume de Dieu, pour que nous amenions les captifs à la liberté de Christ. Dieu nous a dit dans ses prophéties qu'on pourrait prier pour les morts et ils ressusciteront. Il nous a dit qu'on verrait des maladies mortelles disparaître, des libérations des captifs d'oppression démoniaque, des maladies mentales disparaître, des maladies héréditaires disparaître, des schizophrénies disparaître, des cas cliniques graves disparaître. Oui, Seigneur ! Il lève une onction d'évangélisation aussi dans cette église. Et il ne nous appelle pas parce qu'on est doué. Comme Pierre a été appelé alors qu'il n'était pas vraiment instruit, et il a été un de ceux qui a récolté le plus d'âmes pour Christ, il nous appelle avec qui on est, pour son royaume, mais avec puissance. Seigneur, nous voulons avoir cette bonne perspective-là dans nos vies. Nous voulons avoir ta perspective. Et Paul, il nous laisse un énorme encouragement pour nous aider à avoir une bonne perspective dans nos vies et comment gérer la pression. Lui, il a connu plusieurs peuples, plusieurs cultures. Il a vu des Juifs, des Grecs, des Romains, plein d'autres certainement encore. Et c'est intéressant de voir comment lui va annoncer l'évangile dans ses différentes cultures. Et ça nous aide pour nous aujourd'hui à gérer nos influences. Quand Paul voit les Juifs cherchaient des miracles. Mais Paul leur a annoncé rien d'autre que Jésus-Christ mort et ressuscité. Quand il a rencontré les Grecs, avec l'esprit grec, le raisonnement, ils cherchaient le développement personnel, ils cherchaient à s'améliorer eux-mêmes. Il ne leur a pas présenté Jésus comme celui qui allait les rendre beaux, forts, intelligents et riches. Il leur a présenté Jésus mort et ressuscité. Quand Paul était avec les Romains étaient forts, ils cherchaient des héros. Il n'a pas présenté Jésus comme le héros qui est venu et qui s'est sacrifié pour son peuple. Il a parlé de Jésus qui était mort et ressuscité. Il n'a pas modifié le message. Il n'avait pas le droit, ce n'était pas son message. C'était le message de Jésus. Corinthiens 1, 21, si vous voulez suivre, sinon. Il a plu à Dieu de sauver les croyants, c'est la partie B du verset. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quand Paul dit la folie de la prédication, c'est que c'est pas que je vais commencer à vous parler avec des mots complètement incompréhensibles et que vous penserez que je suis folle. Mais le message qu'il donne est folie pour ceux qui le reçoivent. Il va à contre-courant de la culture qui est là. Et Paul, il ne subit pas la pression de la culture. Ça aurait été facile de présenter Jésus comme eux voulaient le voir, mais il a annoncé l'évangile à contre-courant. Il a choisi de ne pas présenter Jésus comme la dernière pièce du puzzle à notre bonheur. Mais il a choisi de présenter Jésus comme celui qui nous demandait de changer toute notre façon de penser. Et ça nous encourage, nous aussi, quand on fait face aux influences dans notre entourage. On voit fortement des influences de « Ah, moi je veux être libre, je ne veux pas m'engager ». On le voit même avec le mariage aujourd'hui, « Je ne veux pas m'engager ». Moi je recherche mon épanouissement dans ma carrière, dans la vie que je construis. Est-ce qu'on amène un Jésus qui va être juste la pièce du puzzle dans leur vie? Ou est-ce qu'on présente Jésus comme celui qui est mort et ressuscité, qui va bouleverser nos vies, qui est la puissance même? Paul, il n'a pas condamné les gens au dehors qui vivaient dans la débauche. Quand il était à Corinthe et que c'était une ville dépravée sexuellement, c'était une ville où il y avait des choses très difficiles qui se passaient, qui avait même mauvaise réputation dans l'entourage. Paul, il n'a pas dit « je condamne, il faut que l'Église condamne ces gens-là ». Il a juste été sévère avec les gens dans l'Église qui se disaient chrétiens et qui vivaient comme les autres. Il a dit « Ne mettez pas sur un piédestal les gens qui vivent dans la débauche en disant « mais Dieu fait grâce ». La grâce de Dieu, il le voyait dans l'Évangile en annonçant Jésus-Christ mort et ressuscité. Et aujourd'hui, il y a des versets dans la parole de Dieu qui ne sont pas juste la pièce du puzzle manquante, mais qui nous demandent de nous réajuster, qui nous demandent aujourd'hui dans le thème qu'on a pour ce premier trimestre « les uns, les autres ». De voir les choses autrement, avec sa perspective à lui, et pas juste avec comment je rentre ça dans mon agenda. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dites ça à vos voisins. Dites ça à vos collègues de boulot, qui cherchent qu'une chose, c'est être bien, c'est à être mieux. Notre mieux à nous, c'est en offrant nos vies. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est pas très populaire. Hein. Et pourtant, c'est l'évangile. Pourtant, c'est l'évangile. Romains 6, 22. Libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Libéré du péché et esclave de Dieu. Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Et il nous dit, devenez esclave à moi, de moi pour être libre. Ça va contre-courant, ça percute notre manière de penser. Mais le Seigneur, il nous dit, mais c'est ça mon évangile. C'est ça mon évangile. Si donc le Fils nous rend libres, vous serez réellement libres. Le monde cherche la liberté. Qu'ils connaissent Christ et ils seront libres. Suivre Christ demande des choix depuis le départ et aujourd'hui aussi. Mon agenda il peut être tout à fait assez rempli pour que je n'aie pas le temps pour voir des frères et des sœurs. Parfois, je peux être tellement repu de mes activités que je ne sens pas le désir de démontrer le royaume autour de moi. Et quand je m'en rends compte, j'ai un cri au fond de moi qui dit « Mais plus Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de ça. » Je veux plus, Seigneur. Et si je ne mets pas des impératifs, ma semaine, elle passe toute seule, sans que je m'ennuie. Avant de partir, Jésus nous laisse une mission. Il nous dit, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, Marc 11. À toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, il nous laisse une mission. Et à la lumière de cette grande histoire, comment on va gérer notre vie? Comment on va gérer notre quotidien? Comment on va mettre une priorité sur la mission que Jésus nous laisse? On a un désir brûlant de voir le royaume démontré autour de nous, ici, mais pas juste au sein de nos quatre murs. On a envie de voir le royaume de Dieu démontré autour de nous, dans nos travails, dans nos villages, dans nos villes. Seigneur, remplis-nous ton esprit. On a besoin de toi. On n'y arrive pas tout seul. On a besoin de ton esprit. On perd souvent beaucoup de temps avec une chose aussi. Dans Romains 8, au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. Combien de fois dans notre vie on avance et on sait qu'on ne fait pas ce qu'on devrait et du coup ça nous accable. Et plutôt que de dire « mais c'est pas grave, je vais quand même y arriver et je vais changer », c'est un poids et on se sent de plus en plus culpabilisé. Et Dieu nous dit « mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ ». Alors ne perdons plus de temps à se sentir condamné, à se sentir coupable, mais avançons libres. On a besoin les uns des autres. On a besoin des groupes de vie pour nous soutenir. Dans une église en croissance, les groupes de vie sont des havres familiaux dans lesquels on peut tisser des liens, dans lesquels on peut confier notre vie, dans lesquels on peut s'encourager. On a besoin de vivre cette dimension. Et on a besoin de cette dimension pour se challenger aussi. Et j'aimerais nous challenger. Osons démontrer le royaume. On a vu les promesses de Dieu pour notre communauté, les promesses de Dieu pour notre vie. Osons prier pour les malades. Osons imposer les mains. Osons prier pour des délivrances. Osons, osons. Et pour ça, on a besoin de se challenger. Que dimanche prochain, il y en ait un, deux ou trois qui puissent témoigner d'un miracle qui s'est passé dans la semaine. que dans les groupes de vie, on puisse s'encourager à avoir des miracles. Je rebois. Alors, si quelqu'un ce matin, Pierre l'a déjà dit, mais si quelqu'un ce matin n'a pas encore reçu l'antidote du venin mortel du péché, c'est le moment de l'accepter. C'est le moment de l'accepter. Il n'y a que Jésus qui enlève le venin mortel du péché dans nos veines. Et s'il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'accepter Jésus, il pourra venir devant. Il y a des responsables qui vont prier, qui sont là pour ça, pour accompagner. Et ce matin, peut-être que, avec ce qui a été partagé, vous sentez quelque chose qui boue dans vos tripes. Pas que vous avez forcément la capacité à ou l'expérience pour, mais juste vous sentez quelque chose. Vous sentez une foi monter. Vous sentez qu'il y a plus. Vous sentez peut-être que Dieu vous éclaire sur un certain domaine. Et bien, j'aimerais vous inviter à vous lever comme un engagement avec Dieu. Pas parce qu'on est capable, comme Pierre, juste parce que Dieu nous a dit et parce que Dieu va faire quelque chose. Alors j'aimerais prier, et ceux qui ont envie de plus, ceux qui se disent en eux-mêmes, dans leur esprit, je veux voir plus. Oui, je veux marcher dans les promesses que Dieu a pour ma vie, dans les promesses que Dieu a pour notre communauté à la lumière de la grande histoire. Et qui sentent ça, vous pouvez vous lever à votre place. Et vous pouvez commencer à prier, à supplier Dieu, de dire « Viens, viens, viens Seigneur au secours de mon incrédulité, viens Seigneur là où je manque de foi, là où je doute, mais je sens qu'il y a plus. » Commencez à prier, à demander à Dieu de vous saisir par son esprit. Demandez à Dieu de vous donner des occasions de voir comme le Samaritain, de se détourner du quotidien, de prendre du temps, de perdre un peu de temps pour voir le prochain, pour voir un frère ou une sœur, pour voir quelqu'un prendre soin, le mettre quelque part et le soigner, le délivrer. Seigneur, ce matin, par ton esprit, viens allumer le bouton de notre radio. On ne veut pas se satisfaire d'une vie sous pression. On veut te demander de venir nous renouveler par ton esprit, dans la compréhension que toi tu as. Vraiment, je vous encourage. Priez, vous pouvez chuchoter, mais vous pouvez prier plus fort aussi, parce qu'on veut plus de Dieu. On veut plus de Dieu. S'il y en a qui ont envie de prier pour le venin dans vos veines rencontrer Jésus, si vous voulez vous approcher, vous pouvez vous approcher. Sentez-vous libre. Il y a trop d'urgence à rencontrer Jésus ce matin. Seigneur, nous voulons te voir agir. Nous ne voulons pas nous satisfaire d'une petite routine, d'une petite vie. Mais nous voulons être percutés encore à nouveau par ton évangile dans nos vies. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des résurrections, nous voulons voir des maladies partir, disparaître. Seigneur, fais-nous rentrer dans cette nouvelle vie. Nous voulons te dire plus, Saint-Esprit, parce que ce n'est pas avec nos capacités, c'est avec toi. Alors Saint-Esprit, maintenant qu'on s'est levé, je prie, Seigneur, que tu viennes nous libérer. On s'est levé pas parce qu'on est capable ou parce qu'on sait faire, mais juste parce qu'on veut répondre à ton appel. Alors viens nous libérer ce matin. Viens faire tomber des chaînes de culpabilité. Viens renouveler notre compréhension de ta grande histoire. Saint-Esprit, plus de toi dans nos vies. Nous voulons voir nos villages transformés. Nous voulons voir nos collègues de travail transformés. Nous voulons voir nos villes transformées avec ta puissance. Nous voulons voir le réveil de ton esprit dans cette nation, Seigneur.